La Bibliothèque nationale de France.
Les contes scintillants. Histoire de bijoux. Petit sabot d'argent. Il existe en Russie une immense chaîne montagneuse que l'on appelle l'Oural. Les hommes ont découvert sous ses sommets des ressources très précieuses, comme des gisements de fer. Toute une vie s'est alors organisée autour de ces richesses. On a construit des usines, des villes, creusé des mines. Des milliers de travailleurs ont participé à ce développement industriel. Ils ont aussi donné vie à un folklore bien particulier, offrant à notre imagination de nouvelles légendes. Voici l'histoire de Petit Sabot d'Argent, un conte russe de la période soviétique, écrit par Pavel Bazov. Dans un petit village niché au cœur de la grande montagne qui court de l'océan de glace à la mer close, vivait un chasseur prénommé Kokovania, qui n'avait pas d'enfant. Un beau jour, il croisa la route d'une petite orpheline, Deryonka, et de son chat, Minette. Il adopta la fillette ainsi que l'animal et entreprit, pour les distraire, de leur raconter quelques histoires. À la fin de chaque histoire, Deryonka demandait au vieil homme « Et maintenant, raconte-moi l'histoire du bouc, grand-père. Comment est-il ?» Kokovania lui répondit
« C'est un bouc très particulier. Sa patte avant droite est ornée d'un sabot d'argent. Et quand il frappe le sol de ce sabot d'argent, il y laisse une pierre précieuse. S'il frappe le sol une fois, une pierre précieuse apparaît. S'il le frappe deux fois, il y en a deux. Et s'il se met à trépigner, il y en a tout un tas. »
Grand-père, est-ce que c'est un grand bouc ?
Kokovania lui dit qu'il n'était pas plus haut que la table. Il avait de fines pattes et un beau visage. Et Deryonka demandait de nouveau.
« Est-ce qu'il a des cornes, grand-père ?»«
Oh, ça, il en a, et de belles. Les autres boucs ont deux cornes, mais celui-ci a des bois, et chacun est pourvu de 5 rameaux. »«
Et est-ce qu'il mange les gens, grand-père ?»«
Non, il ne mange personne. Il se nourrit d'herbes et de feuillage. Bon, il peut aussi lui arriver de picorer un peu de foin dans les meules en hiver. »
Et de quelle couleur est-il ?
En été, il est roux, comme Minette. Et en hiver, son pelage devient gris.
Est-ce qu'il sent mauvais comme les boucs, grand-père ?
Kokovania se fâcha. Mais pourquoi sentirait-il mauvais ? Les boucs ordinaires sentent mauvais, mais un bouc de la forêt sent comme la forêt.
L'automne arriva. Et Kokovania se prépara à partir pour les bois. Il souhaitait voir l'endroit où les boucs se nourrissaient. Deryonka commença à supplier, à implorer.
« Amène-moi avec toi, grand-père. Peut-être que je le verrai, même de très loin. »«
S'il est très loin, tu ne le reconnaîtras pas, » répondit Kokovania. « Tous les boucs ont des cornes à l'automne. Et impossible de distinguer le nombre de rameaux. » En hiver, là, c'est autre chose. Car les boucs ordinaires perdent leurs cornes. Mais Sabot d'Argent, lui, garde les siennes toute l'année. C'est là qu'on peut le reconnaître, même de loin.
Grâce à cet échange, il parvint à la décourager. Deryonka resta à la maison, tandis que Kokovania alla dans les bois. Il revint au bout de 5 jours.
Cette année, dit-il, beaucoup de boucs vont sur le chemin de Poltnevsk pour se nourrir. C'est là-bas que j'irai une fois l'hiver venu.
Mais comment feras-tu pour dormir dans les bois en plein hiver ? S'inquiéta Deryonka.
J'ai une sorte de petite cabane là-bas, répondit-il. Elle donne sur la clairière où l'on va pour faucher. C'est une bâtisse solide, avec une fenêtre et un poêle. J'y serai bien.
Alors Deryonka reprit de plus belle.
Est-ce que Sabot d'Argent ira là-bas pour se nourrir, lui aussi ?
Qui sait? Ça se pourrait bien.
Puis l'enfant se remit à supplier, à implorer. « Amène-moi avec toi, grand-père. J'attendrai dans la cabane. Peut-être que Sabot d'argent s'approchera et que je pourrai le voir. »
Au départ, le vieil homme ne voulut pas en entendre parler. Mais Deryonka continua de supplier. « Bien, dit-il enfin. Tu peux venir.
Mais ne t'avise pas de pleurer ou de demander à faire demi-tour quand nous aurons gagné les bois. »
Après un long périple, ils finirent par atteindre la cabane. C'est là qu'ils vivaient tous les trois désormais, et Deryonka en était heureuse. Un jour, Kokovania prit la route pour chercher un cheval au village. Et Deryonka resta seule avec Minette. Elle s'était habituée à la solitude au cours de la journée, lorsque Kokovania suivait la trace des boucs. Mais quand la nuit commença à tomber, elle se sentit désarçonnée. Alors, elle observa Minette et vit qu'elle était confortablement installée et qu'elle avait l'air satisfait. Deryonka eut du baume au cœur. Elle s'assit à côté de la fenêtre et regarda au travers, en direction de la clairière. Quand, tout à coup, quelque chose qui ressemblait à une petite balle s'élança hors des bois. La forme s'approcha et elle sut qu'il s'agissait d'un bouc. Il avait des pattes élancées, un visage gracile et 5 rameaux sur chaque bois. Deryonka se précipita au dehors sans réfléchir. Mais il n'y avait rien. Elle rentra dans la cabane. « J'ai dû rêver, se dit-elle. Ce n'était que mon imagination. » Minette, alors, ronronna. « C'est vrai. C'est bien vrai. » Deryonka prit la chatte avec elle pour se mettre au lit et dormit sur ses 2 oreilles jusqu'au petit matin. Une nouvelle journée passa, et pas de Kokovania. Deryonka s'ennuyait et se sentait seule. Mais elle ne pleura pas. Au lieu de ça, elle câlina la chatte. « Ne te tracasse pas, Minette, » dit-elle. « Grand-père sera de retour demain, tu verras. » Minette se contenta de fredonner son refrain habituel. « C'est vrai, c'est bien vrai. » De nouveau, Deryonka s'assit à côté de la fenêtre pour observer les étoiles. Elle s'apprêtait à aller au lit, quand elle entendit soudain un bruissement derrière le mur de la cabane. Elle sursauta, effrayée, et le bruissement se fit entendre derrière l'autre mur, puis encore derrière le premier, une nouvelle fois derrière la porte, et enfin depuis le toit. Ce n'était pas un bruit sourd, plutôt des pas nerveux, mais légers. Tout à coup, Deryonka se dit « Et si c'était le bouc qui m'a rendu visite hier ?» Elle voulait tellement l'apercevoir que même la peur ne la retint pas. Elle ouvrit la porte et jeta un œil à l'extérieur. Le bouc se tenait là, paisible, à proximité. Prêt à frapper le sol, il leva l'une de ses pattes avant, sur laquelle étincelait un sabot d'argent. Ses cornes avaient bien 5 rameaux. Deryonka ne sut que faire, alors elle l'appela, comme elle l'aurait fait avec une chèvre ou un bouc ordinaire. Le bouc éclata de rire, puis il tourna le dos et s'élança à travers la clairière. Deryonka, de retour dans la cabane, expliqua à Minette tout ce qu'elle venait de voir. « J'ai aperçu Sabot d'argent, j'ai vu ses cornes, j'ai vu son sabot. Par contre, il n'a pas frappé le sol pour y laisser une pierre précieuse. Ce sera pour la prochaine fois. » Et Minette entonna son éternel refrain. « C'est vrai, c'est bien vrai. » Le 3e jour s'écoula et Kokovania n'était toujours pas de retour. Deryonka se sentait quelque peu troublée. Elle pleura même un moment. Elle voulut parler à Minette, mais Minette était introuvable. Deryonka, désormais très effrayée, s'élança au dehors, à la recherche de la chatte. La nuit était claire et la lune pleine. Deryonka regarda autour d'elle. Non loin de là où elle se trouvait, elle vit la chatte,
assise dans la clairière face au bouc. Minette hochait la tête et le bouc l'imitait. On eût dit qu'ils étaient au beau milieu d'une conversation. Puis, ils se mirent à sauter partout dans la neige. Le bouc courut ici, puis là. Il s'arrêta un moment et frappa le sol de son sabot. Quand Minette le rejoignait, le bouc bondissait quelques mètres plus loin et frappait de nouveau le sol de son sabot. Ils jouèrent longtemps dans la neige, puis disparurent au loin. Quand ils revinrent finalement à la cabane, le bouc sauta sur le toit et commença à le frapper de son sabot d'argent. Des pierres précieuses se mirent à jaillir comme des étincelles, des rouges, des vertes, des bleues. Elles étaient de toutes sortes et parées de mille couleurs. C'est à ce moment-là que Coco Vania revint. Il ne reconnut pas la cabane. Elle était ensevelie de pierres précieuses qui scintillaient de mille feux. Au sommet de la chatoyante montagne de pierres, le bouc ne s'arrêtait plus de faire claquer son sabot d'argent, duquel les trésors jaillissaient encore et encore. Soudain, Minette s'élança sur la pile et s'installa aux côtés du bouc. Elle miaula, et puis, il n'y eut plus rien. Ni Minette, ni sabot d'argent. Coco Vania se servit de son chapeau comme d'un récipient et le remplit de pierres jusqu'à mi-hauteur. Mais Derionka le supplia. « Ne les touche pas, grand-père. J'aimerais voir ça de mes propres yeux, à la lumière du petit matin. » Coco Vania accepta. Mais avant même que le soleil se lève, une importante couche de neige avait tout recouvert. Ils déblayèrent, mais ne trouvèrent rien en dessous. En fin de compte, ils ne s'en sortirent pas si mal, grâce à ce que Coco Vania avait pu récupérer dans son chapeau. Ainsi, tout finit bien. Mais quel dommage pour Minette. Personne ne la revit jamais. Sabot d'argent disparut également. Il leur avait montré son pouvoir une fois. Et c'était amplement suffisant. Après cela, de nombreux promeneurs trouvèrent des pierres dans la clairière où le bouc avait folâtré. La plupart étaient vertes. On les appelait des chrysolites. Et vous, en avez-vous déjà vu ? Petit sabot d'argent. Un conte de Pavel Bazoff, lu par Julia Bouteville et traduit par Camille Lefebvre. Cette histoire est extraite du coffret de Malakhite, un ouvrage en langue russe réunissant plusieurs contes populaires ouraliens recueillis par Pavel Bazoff et publiés en 1938. Les contes scintillants, histoire de bijoux, une série originale de la Bibliothèque nationale de France en partenariat avec l'École des arts joailliers soutenue par Van Cleef & Arpels. Coordination scientifique, Charline Coupeau. Coordination éditoriale, Constance Esposito. Réalisation et générique original, David Federman.